Bonsoir, les chefs des services de sécurité du Rwanda, de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Burundi ainsi que de la RDC se sont réunis hier à Kinshasa pour mettre en place une synergie des services de sécurité, particulièrement les renseignements. Objectif, renforcer la sécurité le long des frontières de la RDC avec ses voisins. Ces assises se sont déroulées sous la conduite du mécanisme national de suivi. Comment analyser cette initiative? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce jeudi 6 juin 2019. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Maître Juvenal Munubo Mubi, député national élu de Walikale au Nord Kivu. Il est cadre de l'UNC et membre de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Honorable Juvenal Munubo, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly, bonsoir à tous les auditeurs.
Professeur Mwaila Chiembe, directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques dénoncés en France. Professeur Mwaila, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly.
Et Claude Ibalanki, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Merci parce que vous êtes très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Yves Nama depuis Goma au Nord Kivu. Les Congolais étant les plus grandes victimes de cette insécurité, notre gouvernement devrait s'impliquer au plus haut niveau dans cette initiative. Mais le meilleur reste de doter le pays des services de sécurité performants, car il ne faut pas trop compter sur ses pays voisins, surtout lorsque il est établi qu'ils sont parfois à l'origine de l'insécurité dans notre pays. Merci de nous suivre à Goma, au Nord Kivu, sur la 105.2. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio Okapi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Une synergie des services de sécurité, particulièrement les renseignements, est en train de se mettre en place pour renforcer la sécurité le long des frontières de la RDC avec ses voisins. Pour ce faire, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie et le Burundi ont dépêché leur chef d'intelligence à Kinshasa. Ils se sont réunis hier, mercredi, pour ceux de la RDC, sous la conduite du mécanisme national de suivi, MNS en sigle. L'objectif poursuivi étant de sécuriser les frontières, surtout dans la partie est de la RDC. Considérée poreuse selon le coordonnateur du MNS. Claude Ibalanki explique la finalité de cette réunion et les résultats attendus. Il est au micro de Jeff Ngoy.
Cette réunion avait déjà été décidée par les chefs d'État qui étaient réunis au mois d'octobre passé en Ouganda, qui avaient décidé qu'il faut qu'il y ait une synergie entre les services de sécurité, principalement les renseignements. Et aujourd'hui, nous, en tant que mécanisme, nous faisons notre rôle de suivi pour se rassurer que cette rencontre telle que décidée par les chefs d'État a lieu.
Et vous attendez à quels résultats?
Mais les résultats, c'est d'abord créer une interdépendance sécuritaire entre les pays mentionnés. Vous allez remarquer, c'est pas une coïncidence, mais ce sont les pays avec qui nous partageons les frontières. Ensuite, ce qui va être très différent de cette réunion, nous ne voulons pas avoir un talk show où nous venons avec des déclarations vides ou même des recommandations, mais les recommandations vont se retourner vers les acteurs qui sont présents. C'est-à-dire, nous voulons sortir de cette réunion avec une feuille de route, avec des actions précises, avec des dates, et toutes ces actions vont faire partie du rapport qu'on donnera au chef d'État.
C'était la Claude Ibalanki, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, qui va nous rejoindre dans un tout petit moment dans cette émission. Maître Juvenal Munubo Mubi, je rappelle que vous êtes député national élu de Walikale au Nord Kivu. Vous êtes cadre de l'UNC et membre de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Comment vous analysez cette initiative de la RDC?
Merci beaucoup, Madame Kelly. Tout d'abord, je salue le professeur Mwaila Chiembe et M. Claude Ibalanki, avec qui je participe dans cette émission. Et je pense que ça rentre dans ce qu'a déclaré le président Félix Tshisekedi lors de son investiture le 24 janvier de cette année. La restauration de l'autorité de l'État, la consolidation de l'autorité de l'État, notamment à l'est du pays. Et puis, ça fait suite aussi à beaucoup d'instruments juridiques qui ont été signés par les Congos, par la République démocratique du Congo. Il y a les pactes de Nairobi, par exemple, de décembre 2006. Et il y a l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs, signé en date du 24 février 2013. Et lorsqu'on voit les deuxièmes textes ici, il y a des engagements que le Congo a pris. Et parmi ces engagements du gouvernement congolais, il y a continuer à approfondir la réforme du secteur de sécurité, consolider, comme je le disais tantôt, l'autorité de l'État, effectuer des progrès dans la décentralisation, promouvoir le développement économique, parce que ici on est conscient que l'insécurité peut être aussi liée à la pauvreté et qu'il faut aussi faire des progrès dans les cadres socio-économiques. Les réformes structurelles comme celles de finances publiques, la tolérance, la réconciliation. Et donc je vois là une volonté des nouvelles autorités congolaises à mettre en pratique un peu tous ces dispositifs, ces instruments juridiques qui ont été signés par notre pays. Surtout que l'insécurité continue. Lorsqu'on prend le seul cas de Béni, c'est plus de 1000 personnes tuées depuis fin 2014, avec le phénomène ADF Nalou. Ça devient très inquiétant. Aujourd'hui, on nous parle de plus en plus des forces terroristes. L'insécurité tant dans les territoires que l'insécurité dans les villes aussi. Pas plus tard, tout récemment à Goma, vous aviez appris des cas d'assassinats, des tueries, etc. Et donc, moi, je restais optimiste et je vois là l'expression d'une volonté. Peut-être que nous voulons assister à une situation nouvelle cette fois-ci, où on voit la gouvernance sécuritaire s'améliorer en République démocratique du Congo. Et donc, ça donne des raisons d'espérer. Surtout que la sécurité au Rwanda ne peut pas se concevoir s'il n'y a pas la sécurité dans les autres pays, tout comme donc le Rwanda a besoin du Congo, le Congo a besoin du Rwanda, du Burundi. Ce sont des pays voisins et on ne peut pas déplacer les frontières. Et c'est
de réunions dans les passés, Maître Juvenal Mounoubo. Il y a eu des recommandations, mais malheureusement, cela n'a jamais été appliqué. On va des réunions en réunion. Est-ce que cette fois-ci, vous pensez vraiment que ces pays ont la ferme volonté de pouvoir appliquer toutes les recommandations issues de cette réunion?
Vous avez raison. Et honnêtement, je dois dire qu'il y a déjà eu beaucoup de rencontres, il y a déjà eu beaucoup de signatures, il y a déjà eu beaucoup de promesses. Je suis d'accord avec vous. Il faut être honnête. Mais je reste optimiste. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement important qui est intervenu dans le fonctionnement des institutions au Congo, dans la vie politique au Congo. C'est qu'en début de l'année, nous avons un nouveau président de la République, nous avons des nouvelles autorités, nous avons une nouvelle Assemblée nationale élue, et au niveau provincial, des assemblées provinciales aussi, des exécutifs. Eh bien, il y a moyen de rester optimiste et de penser que cette fois-ci, on peut arriver à quelque chose. Raison pour laquelle je reste optimiste, mais il ne faut pas aussi que la société civile croise les bras. Parce que la gouvernance, elle doit être participative. Il y a les efforts attendus par ceux qui sont dans l'exécutif, par nous députés. Nous devons renforcer les contrôles parlementaires, notamment en matière de sécurité. Mais la société civile aussi doit maintenir l'œil ouvert et contrôler et suivre de près ce qui se passe. Pourquoi? Parce que le travail de la population et des forces vives ne se limite pas seulement avec l'élection. Vous avez élu des gens. Eh bien, il faut suivre le gouvernement qui a été mis en place. Quel est l'impact et quels sont les effets et quelles sont les réalisations de ces gouvernements. Et donc, je plaide aussi, j'exhorte au fait la société civile à jouer pleinement son rôle de contrôle citoyen dans le cadre d'une gouvernance participative.
Alors, il y a Yves Nama qui nous écrit depuis Goma, qui pense qu'il ne faut pas trop compter sur ces pays voisins, surtout lorsqu'il est établi qu'ils sont parfois à l'origine de l'insécurité dans notre pays.
Alors, encore une fois, je préfère rester positif, surtout que ces pays même ont signé ces dispositifs. Lorsque vous voyez par exemple le pacte de Nairobi, il y a ce qu'on appelle le protocole de non-agression et de défense mutuelle. Lorsque vous voyez l'accord cadre d'Addis Abeba, on dit ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures, ne pas surtout tolérer ni fournir l'assistance ou soutenir quelques groupes pour déstabiliser l'autre. La coopération judiciaire aussi. Je pense qu'il revient aussi au Congo, à la diplomatie congolaise, d'exiger le respect par les autres de sa souveraineté, le respect de ses frontières. Et au niveau de la diplomatie sous-régionale, moi j'ai toujours dit, il faut une bonne dose de sincérité, parce que j'ai eu l'impression, par rapport aux initiatives passées, qu'on a été un peu superficiel, qu'on ne s'est pas dit suffisamment de vérité. Et je crois que cette fois-ci, il faut une diplomatie marquée par la sincérité. Et c'est ce qu'on attend du nouveau ministre des Affaires étrangères, par exemple. Et on attend du ministre de la Défense un plan clair pour la réforme du secteur de sécurité. On a des lois en rapport avec le secteur de sécurité. Mais cette fois-ci, il faut que tout cela se mette en pratique, que les militaires soient bien motivés à faire leur travail et qu'il y ait des résultats, surtout qu'il n'y a pas de mauvaises troupes. Hein, on dit souvent qu'il y a des mauvais chefs. Et donc, il faut aussi, au niveau du commandement, y placer des gens vaillants, des commandants vaillants, comme ce qu'on a connu avec Mamadou Ndala, Bahouma. Et les gens ne manquent pas, les officiers ne manquent pas pour cela.
Merci, Maître Mounoubo. La réalisation me signale que Claude Ibalonki est en ligne. Monsieur Ibalonki, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Il s'est tenu à Kinshasa pendant deux jours, donc hier et aujourd'hui, cette réunion des chefs des renseignements de la RDC, du Rwanda, de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Burundi. Qu'est-ce qu'on peut retenir ou quelles sont les recommandations issues de cette réunion?
Nous venons de clore la réunion, madame, comme vous l'avez dit. Pendant les deux derniers jours, qui s'est tenue ici à Kinshasa même, la réunion des pays dont vous avez cité. Mais il y a beaucoup de recommandations.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'essentiel, quoi? Les plus importantes.
Les plus importants, c'est la décision de mettre en place un groupe de travail technique pour examiner, pour faire l'état des lieux et pour suivre sur toutes les décisions qui ont été prises avant, mais qui n'ont pas été mises en application, mais aussi pour développer de nouvelles stratégies pour mettre fin à cette problématique d'instabilité et des conflits qui nous guettent depuis plus de 20 ans maintenant.
Alors, ce groupe de travail, mettre en place un groupe de travail technique, ça sera composé de pays qui ont participé à la réunion?
Oui, initialement, ça sera composé de pays qui ont participé, notamment le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie et la RDC, bien sûr. Et puis, au besoin, on va l'extendre à d'autres pays. Mais c'est initialement ces cinq pays. Mais il y a d'autres recommandations. Par exemple, nous avons aussi adopté de prendre une approche globale dans la neutralisation de ces groupes armés. Au lieu de prendre seulement une approche militaire, par exemple. Donc, nous avons appris beaucoup de leçons sur ce qui s'est passé dans le passé et pourquoi, après autant d'années, autant d'efforts, autant de sacrifices, autant de vies humaines perdues, autant d'argent dépensé, nous n'avons toujours pas eu de solution à ces problèmes. Donc, nous sommes convenus d'adopter une approche globale. Et privilégier l'usage de la force quand c'est nécessaire, mais après avoir exploré toutes les autres options, notamment l'option diplomatique et autres.
Alors, beaucoup de Congolais ou des auditeurs qui nous ont écrit restent quand même assez sceptiques par rapport à la mise en application de recommandations de cette réunion.
Oui, ils n'ont pas tort. On ne peut pas dire le contraire, mais nous sommes dans une nouvelle dynamique. Les changements qui a survenu au Congo avec l'alternance démocratique et pacifique que nous avons connue au mois de décembre dernier, après les élections du 31 décembre 2018, donne un nouvel espoir. C'est un nouvel élan. Et vous avez déjà remarqué que déjà au niveau diplomatique, nos relations se sont relaxées avec les pays frères, les pays voisins. Et cet élan, c'est ce qui nous incite et nous donne espoir de croire que cette fois-ci, nous sommes bien partis. Mais ensuite, il y a des signaux très positifs que nous recevons, surtout au niveau du mécanisme national de suivi. Nous recevons presque chaque jour des appels des groupes armés qui disent maintenant qu'il y a eu un changement pacifique à la tête du pays, nous n'avons plus de raison de continuer à rester dans la forêt, nous voulons sortir. Donc, il y a cette ère d'optimisme qui existe et nous capitalisons sur cela.
Mais ces mêmes groupes armés qui sortent de la forêt rentrent parce qu'ils ne sont pas pris en charge convenablement.
Oui, dans le passé, oui, parce que les différents programmes DDR n'ont pas marché comme il fallait. Et là, nous sommes en train de développer une autre approche pour réinsérer et non seulement désarmer, mais aussi réinsérer dans la communauté les combattants qui sortent qui sort de la forêt. Donc il y a une approche qui se développe en partenariat avec la communauté internationale et autres acteurs importants. Nous sommes en train de développer des stratégies et des plans pour ne pas répéter les erreurs du passé.
Alors, Monsieur Claude Ibalanqui, vous êtes réunis pour mettre en place une synergie des services de sécurité, particulièrement les renseignements. Ça signifie qu'il y aura un échange d'informations, lesquelles, par exemple, quelles sont les informations qui seront partagées entre ces pays?
Donc, il y a beaucoup. Il y a la cartographie des groupes armés. Il y a leur mode de recrutement. Il y a leurs sources de financement, sources de ravitaillement également, que ce soit en armes ou en autres, et puis les commerces qu'ils font. Donc il y a beaucoup de renseignements qui vont être échangés parmi les services, de manière à couper les cordons ombilicales et leur forcer à la reddition, les cas échéant subir la force de la loi.
Est-ce que vous croyez en la sincérité de ces pays limitrophes, Monsieur Claude Ibalanqui?
Oui, parce que la volonté politique y est, tout part de la volonté politique. C'est vrai que la Réunion a reconnu qu'un des grands problèmes majeurs que nous avons eu dans le passé, c'était un problème de confiance. Il n'y avait pas confiance mutuelle entre les différents acteurs, entre les différents pays et les leaders des différents pays. Il y avait toujours cette ère de suspicion, cette ère d'accusation. Alors l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a apporté cette ère d'apaisement dans les chefs des leaders de la région, de la sous-région. Et l'approche même que les chefs de l'État congolais a adoptée est très positive. Alors, nous sentons une réponse positive qui vient aussi. Donc, la réunion de ces deux jours a reconnu que les problèmes de confiance existent. Mais vous savez, la confiance ne se donne pas en un jour ou en deux jours de réunion. Donc nous sommes mis d'accord que nous allons continuer l'élan donné par les chefs de l'État, les différents chefs d'État de la région, leur cordialité, leur fraternité, pour restaurer la confiance au niveau des services, au niveau des pays respectifs. Et sur base de cette confiance, nous pensons que les choses seront faites définitivement de manière très différente.
Merci, Monsieur Ibalanqui. Professeur Waila Chiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Professeur, comment vous analysez cette démarche?
Ben, disons que la démarche du président de la République consiste à impliquer les pays voisins, répond à la sagesse d'après laquelle la politique étrangère des États est dans leur géographie, c'est Napoléon qui l'avait dit. Et à l'époque du président Mobutu, à peu de choses près, Mobutu avait fait adopter un principe de politique étrangère appelé la vocation africaine du Zaïre. C'est-à-dire que dans la mesure où le Zaïre, le Congo, partage sa frontière avec 9 pays, tout problème pratique de sécurité en RDC a des implications sur les pays voisins et toute question de sécurité chez les pays voisins a des implications sur la République démocratique du Congo. Le fait que le nouveau président de la République ait tenu à associer les pays africains au sort du Congo, c'est une bonne démarche. Pourquoi? Parce que la politique de bon voisinage est l'une des conditions de lutte contre l'insécurité et la recherche de la paix. Pourquoi? Parce que les acteurs de l'insécurité, qu'il s'agisse des Maïmaï, les Pakatakatanga et bien d'autres encore, et si on prend d'autres auteurs d'insécurité, mais qui ont un pas à l'extérieur du pays, que ce soit l'FDLR, que ce soit les ADF Nalu, ces individus profitent de la frontière commune entre la RDC et les pays voisins et vice-versa. Lorsqu'il y a des oppositions au gouvernement du Rwanda, au gouvernement du Burundi, au gouvernement de l'Ouganda, qu'est-ce qu'on constate? Les acteurs de la violence ou de l'insécurité peuvent se réfugier sur le territoire congolais. Et cette situation a créé la méfiance généralisée entre les pays voisins, au point que, à un moment ou à un autre, les relations ont été soit interrompues, soit gelées. Donc, relancer la coopération avec les pays voisins au nom de la politique de bon voisinage, c'est l'un des premiers pas pour lutter contre l'insécurité. Le deuxième pas, nous avons appris de Jules César que qui veut la paix prépare la guerre. Donc, le président de la République, pendant la campagne électorale, avait souhaité transférer le quartier des forces armées de la République démocratique du Congo soit à Beni, soit à Goma. Et qu'est-ce que ça traduit, cette volonté? Ce n'est pas en soi le transfert physique du quartier général et des forces armées. C'est l'idée de projection des forces, c'est-à-dire adopter une stratégie militaire de projection des forces autour des trois zones de défense avec une approche interarmée. Et cela demande un effort réel, c'est-à-dire d'abord le Congo doit compter sur ses propres forces, c'est-à-dire réhabiliter son armée, réhabiliter l'entraînement, réhabiliter l'équipement, voir la condition militaire, le logement, les soins apportés aux soldats, leur équipement, les mettre en situation de se battre. Et puis, doter cette armée d'une capacité de sécurité et de défense dissuasive. Ça, c'est l'obligation primordiale du chef de l'État. Et, dans le même esprit, améliorer ou harmoniser le commandement. Le commandement suprême, le chef de l'État et son état-major, le commandement opératif qui fait l'harmonisation et le commandement dit tactique, c'est-à-dire les hommes sur le terrain et l'emploi de la force. Donc, ces questions sont devant nous. Et le troisième élément, c'est le renseignement. Le renseignement technique ou le renseignement humain. Les guerres modernes, même s'il s'agit d'une forme de guerre qu'on appelait jadis les guérillas ou les guerres périphériques, qui opposent des États souverains avec les armées classiques vis-à-vis de forces plus ou moins organisées, mais qui ne répondent pas aux mêmes critères de formation, d'éthique et d'équipement que l'armée classique. Même dans cette forme-là, le renseignement est capital. Le fait que les pays voisins, sur demande de la République démocratique du Congo, veuillent bien harmoniser leur structure d'information militaire et civile, c'est quelque chose qu'il faut féliciter, à condition naturellement que l'on ne s'arrête pas au discours et que l'on passe aux actes.
Alors, professeur Moïla,
là où le bas blesse. Oui, je vous écoute.
Oui, je disais, professeur, on sait que on sait qu'il y a quand même une certaine méfiance hein, entre certains pays qui ont pris part à cette réunion. On va prendre l'exemple du Rwanda et de l'Ouganda, et même de la RDC vis-à-vis du Rwanda. Est-ce que vous pensez que ces États vont être sincères entre eux?
Ben, la sincérité, madame, ce n'est pas une garantie absolue. La sincérité peut être créée par la volonté commune des États d'aller dans la même direction, parce que l'insécurité en République démocratique du Congo peut être l'insécurité chez les pays voisins, notamment le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. S'il y a une prise de conscience réelle et la volonté de partager le même destin en réalité, et le destin de ce pays est lié notamment en matière de sécurité. Bien entendu, les mots ne suffisent pas, mais on peut aller plus loin. Le fait qu'il y ait des velléités, je sais combien les Congolais sont assez critiques au regard du Rwanda, au regard du Burundi, et j'en passe, de l'Ouganda pour des raisons que vous connaissez, et le fait qu'il n'y a pas si longtemps, les forces armées de ce pays occupaient le territoire de la République démocratique du Congo.
Merci.
Mais la méfiance, c'est une question de temps.
Merci, professeur Moïla. Maître Juvenal, on va prendre pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis Bukavu.
Moi, c'est Moulinda Rigika Alain. Je vous appelle de la province de Kivu, précisément à Bukavu. Vu le sujet que nous avons aujourd'hui sur dialogue entre Congolais, moi, je ne vois pas qu'est-ce que ces pays voisins vont faire ici du moment où eux-mêmes, aujourd'hui les relations entre le Rwanda et le Burundi sont tendues, entre le Rwanda et l'Ouganda c'est tendu, la Tanzanie, elle fait une neutralité entre les autres, mais je sais que la Tanzanie, vu ce qu'ils avaient fait pour le Burundi, ils sont du côté du Burundi. Comment ces gens qui ne s'entendent pas déjà entre eux, ils vont venir aider la RDC? Et demain, quand ils vont encore se cogner, étant sur le sol congolais, qu'est-ce que ça va produire comme misère au Congo? Pour moi, je pense, nous avons la MONUSCO qui est en RDC. Et si nous regardons les mandats que la MONUSCO a aujourd'hui, je pense que nous devrions souhaiter que ces mandats soient adaptés aux problèmes que la RDC a aujourd'hui.
Maître Juvenal.
Je crois que, M. Alain, il faut rester comme je le suis, hein, optimiste. Des tensions
intéressantes. Mais être aussi réaliste.
Être aussi réaliste, mais qui sait que peut-être qu'une médiation peut provenir même du Congo. Il ne faut pas sous-estimer le rôle de la RDC. La RDC, c'est un grand pays et il faut savoir qu'à l'époque, les leaders du Zaïre à l'époque, Mobutu, parfois jouaient même des médiations pour certains conflits en Afrique. Et donc, il ne faut pas sous-estimer le rôle qui peut être celui de la RDC. Pourquoi pas rapprocher les frères qui ne s'entendent pas actuellement ou rapprocher des frères, des voisins, lorsqu'il y a des tensions entre eux. Donc, je crois qu'il faut rester optimiste à ce point-là. Et je crois que au niveau onusien aussi, j'ai senti, parce que l'envoyé spécial était là, hein, et j'avais même suivi sa déclaration, il a lié aussi cette fois-ci d'exhorter, d'interpeller l'ONU à faire davantage. L'ONU qui a un envoyé spécial dans la région des Grands Lacs. Et je crois que si nous restons pessimiste, ça va être difficile d'apporter la pierre à l'édifice. Je crois qu'il faut commencer. Et moi, je vois le président Tshisekedi, il est plein d'optimisme, quoi. Et je crois que nous devons tous nous mettre ensemble pour voir si cette fois-ci, c'est la bonne. Par rapport aux groupes locaux, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport aux groupes locaux? Eh bien, il faut revisiter les programmes DDR, il faut prévoir des filières de réinsertion pour les groupes armés. Il faut que les éléments là des groupes armés qu'ils trouvent que c'est mieux de faire autre chose que de prendre des armes. On peut lancer les travaux de réhabilitation des routes, des axes routiers. Il y a par exemple la nationale numéro 3, Bukavu, Walikale, Kisangani, tout comme Goma, Masisi, Walikale ou d'autres bretelles. Il y a moyen de lancer les travaux des routes, de dire à ceux qui sont, de lancer un message, ceux qui sont dans les groupes armés, messieurs, quittez la brousse, venez travailler. Hein, pour les biens, pour le développement, le désenclavement, eh bien, vous aurez quelque chose. Eh bien, ils peuvent vider les groupes armés et venir faire les travaux de développement ou réaliser les projets de développement. Et tout ça, ça dépend du gouvernement. Donc, il faut un nouveau programme d'aide. Je suis tout à fait d'accord avec Claude Ibalanki à ce niveau-là. Et je pense aussi que il faut réorganiser l'armée. Là, je suis aussi d'accord avec les profs Mwaila TMB. Réorganiser l'armée, ça veut dire quoi? Comme il l'a dit, il faut placer les militaires dans des bonnes conditions de vie et de travail. Il faut chaque fois faire la mise à jour du commandement. Il faut savoir les opérations à l'Est, que ce soit Sukola 1, Sukola 2, les commandants qui sont actuellement à la tête de ces opérations, quelle est leur efficacité? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de chaque fois revoir les commandements et d'y placer des vaillants commandants qui peuvent nous apporter des solutions? Alors, il faut aussi voir l'état des collaborations avec la société civile, les autorités locales. Je pense même qu'il faudrait arriver à tenir des assises, pas des assises avec des groupes armés. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut écarter l'idée d'un dialogue avec les groupes armés. Mais les autorités congolaises, les nouvelles autorités congolaises peuvent ouvrir une discussion avec la société civile, les chefs coutumiers, de façon à ce que des solutions nouvelles soient proposées. Pourquoi? Parce que ce soit les ADF Nalu, les groupes, les milices, eh bien, il y a des gens qui connaissent à peu près là où ils se cachent. Alors, pourquoi ne pas organiser un échange constructif où on voit l'État impliqué?
Je crois que dans le passé, il y a eu ce genre d'échange. Mais qu'est-ce que ça a apporté comme solution?
Mais on n'avait pas la même gouvernance, au fait. Ouais, il faut savoir qu'on a une nouvelle équipe à la tête de l'État et il faut considérer ça comme une opportunité. Raison pour laquelle j'appelle les uns les autres à demeurer optimistes. Je ne le dis pas puisque je suis de la coalition au pouvoir. Je le dis. Pourquoi? Parce que je sais qu'il faut pas céder au pessimisme. Hein? Et il n'y a pas de la fatalité. Il y a des États, si vous voyez l'histoire de l'Europe, il y a des États qui ont souffert. Hein? Parfois comme nous, parfois plus que nous. Et aujourd'hui, l'Europe actuellement vous quittez d'un pays vers l'autre, l'espace Schengen, la confiance. Alors, nous pouvons y arriver. Mais ce n'est pas dans le pessimisme qu'on peut y arriver. Il faut une bonne dose d'optimisme. Et évidemment, il faut être réaliste. Être réaliste, c'est ce que nous faisons. Il faut proposer des solutions. Et c'est comme ça que nous allons changer la situation.
Merci, Maître Juvenal Mounoubo. Claude Ibalanki, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de l'Issala.
Maître Tonton Albert Tambola, depuis l'Issala, nous tenons à saluer l'initiative qui, à notre humble avis, a sa raison d'être surtout le long des frontières de la RDC où la sécurité est devenue la règle et que la sécurité en est devenue l'exception avec des forces négatives qui naissent comme des champignons. Mais hélas, pourquoi cette synergie de sécurité doit avoir comme particularité les renseignements? Est-ce que les renseignements seuls suffiraient pour éradiquer de manière durable les forces négatives qui mettent la population se trouvant aux frontières en insécurité? Telles sont les questions légitimes que nous nous posons.
Alors, Claude Ibalanki, comment vous répondez à cet auditeur?
La question de Maître Albert est très pertinente, mais très valable. La solution, comme j'ai dit plus tôt, que nous devons chercher une solution plutôt globale. Donc, il y a l'aspect sécuritaire, bien entendu, il y a l'aspect militaire, judiciaire, communautaire, socio-économique. Donc c'est un problème multifacette, si on peut l'appeler ainsi. Bien sûr, la sécurité, c'est au centre. La sécurité, un peu, surtout les services de renseignement, ont un rôle prépondérant à jouer dans les recherches de la solution. Mais en même temps, nous ne négligeons pas d'autres aspects de la solution. Donc, j'ai suivi Maître Mounoubo, je suis très d'accord avec tout ce qu'il a dit. Sauf là où il a dit qu'on ne doit pas entamer les dialogues avec les groupes armés. Je crois que c'est nécessaire et nous avons déjà pris des actions dans ce sens pour voir comment engager un dialogue avec les groupes armés. D'abord, il y a des groupes armés qui veulent se rendre eux-mêmes. Nous allons bientôt organiser une conférence où nous allons les mettre tous ensemble et pour développer une feuille de route qui va permettre leur sortie, je dirais pas honorable, mais leur sortie sans condition de la forêt où ils vont déposer les armes. Alors ceux qui vont rester, à ce moment-là, nous allons utiliser d'autres moyens, dont les moyens militaires, dont la force n'est pas exclue. Alors,
de ceux qui vont accepter de déposer les armes?
Oui, ceux qui vont accepter de déposer les armes, nous allons ensemble avec eux, nous travaillons déjà sur des propositions concrètes, comme j'ai dit plus tôt. Donc, nous allons revoir le programme DDR. Maître Mounoubo a fait allusion au projet de construction des infrastructures comme les routes où nous pouvons utiliser cette main-d'œuvre. Donc, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire avec cette main-d'œuvre de plus qui va rentrer dans la communauté. Mais aussi, nous sommes en train de penser aussi aux différentes communautés qui sont affectées par ces conflits. Pendant des années, des décennies, il y a nos communautés qui ont été victimes, qui ont été totalement détruites par ces conflits armés. Donc il faut qu'il y ait des dividendes de paix également à ces communautés. Il faut qu'ils aient des infrastructures pour que la paix puisse les rappeler quelque chose. Donc nous pensons à la construction des écoles, des hôpitaux, des églises, des centres commerciaux et autres. Ça, c'est la vision du chef de l'État. Ce sont les instructions que nous avons reçues du chef de l'État. Donc, d'un côté, prendre soin des combattants qui sortent, mais aussi amener les dividendes de paix aux communautés qui ont été affectées.
Merci.
Aussi, madame...
Allez-y rapidement.
Rapidement, si vous permettez. Dans la conférence que nous allons organiser bientôt, nous allons amener d'autres chefs militaires ou rebelles des autres pays africains, notamment les Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et autres, les gens qui ont été dans la forêt pendant des années, qui sont sortis et qui vont donner leur propre exemple pour montrer que la vie est beaucoup plus belle du côté de la paix que du côté de la guerre.
Merci Claude Ibalanki. Rapidement, brève réaction rapidement, je vais le mettre Mounoubo.
Juste une petite nuance par rapport à ce qu'a dit M. Ibalanki. Des dialogues avec des groupes armés, ça c'est que moi je ne souhaite pas, c'est des rencontres du genre conférence de Goma sur où on a réuni une quarantaine de groupes armés. Je crois que ce qui est à encourager...
C'est ça qui sera fait.
Bon, moi j'encourage plutôt, et c'est là la nuance avec ce qu'a dit Balanqui, il faut plutôt des contacts, des sensibilisations, des contacts de lobbying, et dire aux groupes armés secrètement, et pas les réunir, écouter chacun qu'il déroule son cahier des charges, et ça on en a déjà connu dans ce pays. Je crois qu'il faut faire du nouveau à ce niveau-là.
Merci Maître Mounoubro. Professeur Moïla, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Mbujimayi.
L'Éric Trésor s'engage et j'appelle en direct de Mbujimayi au Kassai oriental. Par rapport à l'initiative, je trouve que c'est une bonne initiative, d'autant plus que le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et la Tanzanie resteront des éternels voisins de la République démocratique du Congo. Mais également, la sécurité des dites frontières n'est pas possible que s'il y a l'existence de relations de bon voisinage dans le cadre de la coopération multilatérale. Cependant, il y a une certaine méfiance du fait que plusieurs initiatives prises dans ce sens sont restées à ce jour lettres mortes, avec comme conséquence la RDC qui en sortait toujours victime. La question majeure reste celle de savoir si nos voisins seront à mesure de respecter cette initiative, on se rappelle qu'ils ont toujours violé l'intégrité territoriale sous prétexte qu'ils traquent des rebelles qui se sont réfugiés en RDC.
Professeur Moïla.
Oui, il y a lieu de penser que l'approche du président de la République est réaliste, parce qu'on a des voisins qui ont les mêmes problèmes que nous, probablement aussi plus importants que les nôtres, en conséquence de quoi la politique de bon voisinage comme paramètre, avant d'aborder ces questions de sécurité, à mon avis, c'est quelque chose de positif. Évidemment, la méfiance existe toujours. Mais la méfiance n'est pas éternelle. La méfiance, c'est une sorte de mur que l'on peut construire ou que l'on peut détruire. L'important, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Si véritablement le gouvernement rwandais, les dirigeants burundais, les dirigeants ougandais sentent et prennent conscience de la sincérité de la démarche du gouvernement de la République démocratique du Congo, et s'ils se reconnaissent dans les questions sécuritaires du Congo, comme pendant à leur propre sécurité, la méfiance peut disparaître ou être atténuée, comme je le rappelle souvent, c'est au pied du mur que l'on voit le maçon. Donc, si la démarche congolaise est efficace, rationnelle, pourquoi pas, le Rwanda peut prendre la main, le Burundi peut prendre la main, l'Ouganda peut prendre la main.
Alors, professeur Moïla, qu'est-ce que vous pensez d'un dialogue avec les groupes armés? Est-ce que ça serait une solution pour éradiquer tous ces groupes qui sèment la sécurité dans l'est de la RDC?
Il n'est pas toujours mauvais de discuter avec les groupes armés. L'objectif, la question est de savoir qu'est-ce qu'on veut en faire. Faut-il discuter avec les groupes armés pour leur donner des ministères ou mettre les délinquants dans l'armée? Ça a été tenté, tout le monde sait que ça a été un fiasco. Mais si on reprend la chose autrement, discuter avec ces hommes égarés, essayer de leur faire comprendre que la République nouvelle est en marche, qu'en tant que citoyens, ils peuvent jouer un autre rôle, prendre ces délinquants, les mettre à l'école, les former au métier nouveau, créer les écoles professionnelles ou réhabiliter celles qui existent. En ce moment-là, si ces hommes et ces femmes, ces jeunes et ces moins jeunes, sont formés dans les écoles professionnelles, s'ils ont un métier garanti demain, soit avec le soutien de l'État ou de la communauté internationale, il y a peut-être un nouveau chemin vers lequel ces hommes et ces femmes peuvent être orientés pour construire une nouvelle perspective de paix. Mais si c'est le débat, la discussion pour la discussion, afin d'obtenir de ces individus qu'ils entrent dans l'armée nationale pour la détruire à nouveau, ou qu'ils deviennent des ministres pour vendre du vent, alors en ce moment-là, la discussion avec eux ne vaudrait pas la peine d'être vécue.
Merci, professeur. Nous tendons vers la fin de notre émission. Ça sera votre conclusion, Maître Juvenal. Il y a Pascal Mouaba qui estime que c'est une distraction parce que ces mêmes pays à qui nous donnons confiance sont à la base de la sécurité en RDC parce qu'ils profitent de nos richesses. Réaction et puis vous allez conclure.
Alors, si nous attendons, on dit, il y a un adage que j'aime beaucoup, aide-toi et le ciel t'aidera. Si nous attendons que c'est la région qui nous sortira de cette impasse, eh bien, nous nous trompons. raison pour laquelle il faut investir sur les efforts internes, accélérer la réforme du secteur de sécurité, renforcer les contrôles parlementaires du secteur de sécurité, renforcer les contrôles citoyens sur les forces de sécurité, agir dans la collaboration, que le gouvernement s'ouvre aux acteurs et aux forces vives. Je crois que si nous construisons un système de sécurité interne efficace, et ça sera facile aussi de bénéficier de l'aide des partenaires ou des voisins de la région.
Merci Maître Mounoubo. Claude Ibalongi, ça sera aussi votre conclusion, puisque vous croyez en la sincérité de ces pays. Est-ce que ça veut dire que dans peu de temps, on n'entendra plus parler des EDF, des FDLR ou même FNL?
Oui, dans peu de temps, madame, les sons de bottes vont sécher totalement. Mais je conclue en disant que chaque chose a un temps. L'instabilité n'est pas éternelle et la donne a changé aujourd'hui. La volonté politique et la détermination du chef de l'État donnent un nouvel élan dans la recherche de la paix et de la stabilité à travers le pays. Nous avons un destin commun avec tous les pays voisins, tous les pays avec qui nous partageons les frontières. Et la stabilité et la restauration de l'autorité de l'État
verra que... Merci, monsieur Ibalongi. Professeur Moïla, un mot pour conclure.
Je pense qu'il y a lieu d'espérer, à condition, bien sûr, de ne pas faire l'horaire réveillé.
Merci, professeur. C'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.